Donc je vous disais, notre dernière intervenante, Madame Valériane Dujardin, qui va nous faire un point sur quelques considérations juridiques concernant les soins dispensés aux personnes mineures. Probablement beaucoup de questions, je pense que c'est un sujet qui nous est apparu évident et extrêmement intéressant. En tout cas, moi, en tant que psychiatre adulte, c'est un des aspects qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire être sûr de bien faire les choses de manière légale et de ne pas passer à côté. Donc ça me paraissait une intervention évidente et j'espère que ça pourra répondre à vos questions.
Bonjour à toutes et à tous. Je remercie au préalable les organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Alors j'avoue que je ne suis pas mécontente que le crédit de 15 minutes qui m'a été octroyé il y a quelques jours vient de s'envoler, compte tenu du fait que je suis souffrante, donc j'espère que l'intervention vous semblera correcte et je vous remercie de votre indulgence. L'étendue même de la thématique des aspects juridiques relatifs à la prise en soin de la personne mineure me conduit nécessairement à ancrer mon propos autour des principes juridiques fondamentaux. Quelques considérations, comme l'indique l'intitulé même de mon intervention. Quelques considérations entre autonomie de la personne mineure et incapacité. Une première considération fondamentale renvoie au statut juridique de la personne prise en soin. L'exercice des droits concernant la personne dépend en effet de son statut juridique. Majeur capable, majeur incapable, le majeur protégé, ou personne mineure. Le Code civil reconnaît la capacité d'exister juridiquement aux personnes majeures qui disposent de toutes leurs facultés de discernement et de compréhension. C'est ainsi que la loi considère que la minorité ou l'altération des facultés de discernement et de compréhension d'une personne la frappe d'une incapacité au sens du Code civil. La personne mineure, en droit français, est la personne qui n'a pas atteint l'âge légal révolu de 18 ans. Sa minorité induit ainsi une incapacité, toujours au sens du Code civil, signifiant qu'elle ne peut prendre aucune décision relative à son patrimoine, sa personne, sa santé, son éducation. Dès lors, étant juridiquement incapable, toujours au sens du Code civil, la personne mineure sera représentée jusqu'à sa majorité dans tous les actes de la vie civile. Je préciserai et soulignerai qu'il n'existe pas de majorité sanitaire. Contrairement à d'autres systèmes de santé, le droit français ne reconnaît en effet pas de majorité sanitaire anticipée distincte de la seule majorité civile. Par principe, ce seront les parents, titulaires de l'autorité parentale, qui prendront les décisions relatives à leur enfant mineur. L'autorité parentale est définie à l'article 371-1 du Code civil. Pour le citer, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. D'ailleurs, en préparant l'intervention, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un ajout de la loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, donc qui a modifié la définition de l'autorité parentale qui elle-même avait été revue par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Enfin, cet article précise, en son dernier alinéa, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ainsi, le Code civil fait expressément référence aux décisions relatives à la santé, visant la protection, mais également le développement de la personne mineure. Il y a les lois et l'esprit des lois. Dans son rapport relatif aux droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale de 2021, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a pu indiquer à ce titre, donc en visant la recommandation du Code civil d'associer le mineur selon son degré de maturité. Le contrôleur indique la chose suivante. Bien que le respect de cette recommandation soit difficilement vérifiable au quotidien, elle traduit une philosophie. L'autorité parentale est donnée aux parents pour accompagner progressivement leur enfant vers l'autonomie. La minorité n'est pas une frontière en deçà de laquelle l'enfant serait dénué de droits. Le mineur est titulaire de droits que ses représentants légaux exercent en son nom. Il est souhaitable qu'il soit informé, consulté et, le cas échéant, participe à la décision. Cette philosophie trouve évidemment à s'appliquer en matière d'hospitalisation. Les droits de la personne mineure, ainsi, en matière de santé, et notamment le droit de recevoir l'information médicale, le droit de consentir ou de refuser les soins, seront exercés par les représentants légaux. Cette information médicale porte, pour citer l'article L1111-2 du Code de la santé publique, donc c'est un article qui a été introduit dans le Code de la santé par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. L'information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et surtout sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Si la personne mineure n'est pas apte juridiquement à consentir, il importe de souligner que son avis, selon son degré de maturité, devra toujours être recherché. Le législateur a ainsi souligné la nécessaire considération de la personne mineure en reprenant textuellement les dispositions de la déontologie médicale, donc dans la dernière mouture de 1995. Au sein de la loi Kouchner, toujours dans le cadre de l'article L1111-2, il est précisé: les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant d'une manière adaptée à leur degré de maturité. Concernant le consentement, il s'agit des dispositions, toujours dans le Code de la santé publique, prévues à l'article L1111-4, toujours issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Je cite: « Le consentement doit être systématiquement recherché si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. » Les parents se voient attribuer un rôle protecteur dans le respect dû à la personne de leur enfant. Et à ce titre, le rôle de protection et in fine de représentation exclusive par les parents ou un tiers habilité induit l'absence de désignation de personne de confiance pour une personne mineure. La personne de confiance est un concept toujours introduit par la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, qui concerne simplement les personnes majeures. Il suffit de lire le premier alinéa de l'article L1111-6 qui indique sans équivoque: toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, venant exclure de fait la personne mineure. Une première considération donc autour du statut juridique de la personne, point de départ pour déterminer le régime de l'exercice des droits, ce que disait le docteur Brunner en fait tout à l'heure. Une deuxième considération relative aux modalités de prise en soin d'une personne mineure en santé mentale. Quelles sont-elles? Par principe, comme indiqué supra, ce sont les parents qui prennent les décisions relatives à la santé de l'enfant et de fait les parents qui vont présenter la demande de soins. En santé mentale, la personne mineure est ainsi majoritairement admise à la demande de ses parents. Alors justement, sur ce point, je préciserai qu'il est inapproprié, inexact, de faire référence dans ce cadre de prise en soins aux soins libres ou aux soins à la demande d'un tiers, puisque la demande est présentée par les parents en l'absence de toute expression du consentement de la personne mineure. Qui plus est, les soins libres sont ainsi définis à l'article L3211-2 du Code de la santé publique comme étant des soins concernant des personnes qui sont avec leur consentement en trouble, qui sont hospitalisées avec leur consentement pour des troubles mentaux. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La personne mineure ne consent pas, donc il est inapproprié de parler de soins libres. La personne mineure ne donne pas son consentement. La personne mineure ne peut pas refuser les soins. La personne mineure n'est pas libre d'aller venir au cours de son séjour hospitalier, ni même de sortir de l'établissement ponctuellement ou définitivement seul. On notera par ailleurs, dans le cadre de prise en soins, à la différence des soins à la demande d'un tiers, qu'il n'y a aucune condition requise par la loi pour une hospitalisation à la demande des parents d'une personne mineure en santé mentale. Alors même que pour les soins à la demande d'un tiers, nous retrouvons deux conditions cumulatives, les troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et un état mental qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Cela questionne tout de même sur le statut juridique, enfin, pour ne pas dire l'absence de statut juridique de la personne mineure. La première modalité d'admission sera ainsi à la demande des parents. À ce titre, question fondamentale, quid du recueil de l'accord des parents ? Un seul ou les deux parents ? Qui est vraiment une question d'actualité aujourd'hui qu'on retrouve dans toutes les structures. Que dit la loi ? Afin que des décisions de la vie courante puissent être prises aisément, sans avoir à obtenir l'accord des deux parents, le Code civil pose, en son article 372-2, une présomption de bonne foi pour le parent qui agit seul dans le cadre d'actes usuels de l'autorité parentale. Je cite « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale. » La présomption vise un acte usuel, mais in fine, la question sous-jacente sera de savoir qu'est-ce qu'un acte usuel et, à contrario, un acte non usuel de l'autorité parentale. Une circulaire de 2009 est venue nous apporter un premier éclairage, in abstracto, c'est-à-dire en fonction de la nature de l'acte envisagé. Il s'agit de la circulaire du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé mentale. Encore une référence juridique, j'en conviens, mais en qualité de juriste, il est difficile d'en faire l'économie. À la page 17 de ce document de 88 pages, il est ainsi précisé concernant les actes usuels et non usuels, enfin, si on peut appeler ça une précision. Je cite « L'attention des médecins est appelée sur le fait que ces notions n'ont pas été définies réglementairement et l'ont été très partiellement par la jurisprudence. Le seuil entre les actes usuels et non usuels est parfois difficile à établir. » Voilà la grande précision de la circulaire. Avec, pour les actes usuels, la considération suivante. Il s'agit d'actes de la vie quotidienne sans gravité, prescription ou geste de soins qui n'exposent pas le malade à un danger particulier, tels que les soins obligatoires, vaccination, les soins courants, blessures superficielles, infections bénignes, les soins habituels, poursuite d'un traitement. Chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard du tiers de bonne foi. Le médecin peut alors se contenter du consentement d'un seul des deux parents, à moins qu'il n'ait connaissance de l'opposition de l'autre parent sur l'acte en cause. Pour les actes non usuels, donc qui nécessitent l'accord des deux parents, la précision est la suivante. Il s'agit d'actes considérés comme lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade et ayant une probabilité non négligeable de survenir. Hospitalisation prolongée, traitement comportant des effets secondaires ou ayant des conséquences invalidantes, actes invasifs tels que l'anesthésie, l'opération chirurgicale. Ces actes nécessitent l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale, même en cas de séparation. À côté de ces précisions, quelques jurisprudences sont venues nous apporter un éclairage sur ce qui a été qualifié d'acte non usuel. N'est pas un acte usuel dans le domaine de la santé, une psychothérapie de longue durée avec une grande régularité. C'est la Cour d'appel de Lyon du 28 février 2011. N'est pas un acte usuel dans le domaine de la santé, l'hospitalisation d'un mineur de 9 ans en pédopsychiatrie. Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2016. N'est pas un acte usuel dans le domaine de la santé, l'administration d'un traitement, en l'espèce du Prozac, à une mineure de 16 ans. Conseil d'État, 7 mai 2014. C'est le Conseil d'État parce que c'est une décision ordinale condamnant un médecin, en fait, sur le plan disciplinaire. Bien que la jurisprudence renvoie à des situations individuelles, et qu'elle soit peu abondante, on peut en déduire que la demande de soins n'est pas un acte usuel de l'autorité parentale. Il est recommandé, comme l'a d'ailleurs souligné Adine Nazan, anciennement contrôleur général des lieux de privation de liberté, il est recommandé de recueillir l'accord des deux parents dans le cadre de la prise en soins en santé mentale de la personne mineure. Dans son rapport de 2017 précité, donc, que le docteur Brunner a visé tout à l'heure également, le rapport relatif aux droits des mineurs en établissement de santé mentale, le contrôleur a précisé la chose suivante. À l'aune de ces seuls exemples, donc pour citer les quelques jurisprudences qui viennent préciser ce qui n'est pas un acte usuel de l'autorité parentale, à l'aune de ces seuls exemples, le contrôleur indique qu'on peut légitimement penser qu'une demande d'admission en hospitalisation complète en psychiatrie ne constitue pas un acte usuel. L'hospitalisation en psychiatrie est susceptible de stigmatiser la personne. Elle donne lieu à des actes psychiquement invasifs, le patient étant nécessairement conduit à livrer son intimité. Les traitements ont fréquemment des effets secondaires pénibles, prise de poids, ralentissement, baisse de la libido. La perte de la liberté à travers la possible mise en chambre d'isolement est plus marquée que pour une hospitalisation en soins somatiques. Le contrôleur a ainsi émis la recommandation suivante. Dans l'intérêt de l'enfant, toute admission ou nouvelle admission à la demande des représentants légaux doit faire l'objet d'une demande spécifique signée par les deux parents lorsque l'exercice de l'autorité parentale est conjoint. Lorsqu'un seul parent est titulaire de l'autorité parentale, l'autre parent doit être informé de la mesure, sauf avoir été privé de ce droit par un juge. À cette fin, les établissements doivent s'assurer de l'identité du ou des titulaires de l'autorité parentale. La difficulté évidente résidera dans le recueil de l'accord des deux parents en situation conflictuelle. Je rappellerai ainsi au préalable que la situation du couple conjugal est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Quelle que soit la situation du couple conjugal, les pères et mères ont les mêmes droits et devoirs vis-à-vis de la personne de leur enfant mineur. En cas de conflit conduisant à une opposition entre les parents et en dehors de l'urgence, ce sera le JAF, juge aux affaires familiales, qui sera compétent pour trancher le litige dans la situation de l'enfant. Si la situation de péril l'exige et médicalement constatée, les services de justice pourront être saisis. La circulaire de 2009, susvisée, précise ainsi. En cas d'urgence, si le refus des titulaires de l'autorité parentale compromet l'intégrité corporelle ou la vie du mineur, le directeur doit, sur avis du médecin, saisir le juge des enfants et ou le procureur de la République en vue de la mise en place d'une mesure d'assistance éducative. Cependant, l'autorisation du juge ou du procureur n'est pas requise, le médecin prenant seul la décision de soins. La déontologie médicale vient en effet nous rappeler que le médecin, en situation d'urgence, délivre les soins nécessaires. Il s'agit des dispositions visées à l'article 42 de la déontologie médicale. Notons dans la même lignée l'article L1111-4 du Code de la santé publique précité, donc c'est l'article relatif au recueil du consentement, une nouveauté de la loi Kouchner qui nous précise, dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale, dans le cas où ce refus risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. C'est une disposition en général méconnue, mais qui existe bientôt depuis 20 ans. C'est toujours l'idée de protection de la personne mineure qui est inscrite dans la loi. La première modalité de prise en soins est ainsi à la demande des parents, et par exception, à la demande des représentants légaux, tels un tuteur, un délégataire. Faut-il le préciser ? Le magistrat peut en effet déléguer l'autorité parentale à un membre de la famille des parents, un proche de confiance, ou à un service de recueil des enfants. De même, un juge peut décider qu'un seul des deux parents exerce l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. C'est toujours, comme précisé à titre liminaire, la connaissance de la situation juridique de la personne qui viendra déterminer le ou les titulaires des droits. Par principe, ce sont donc les parents, auteurs de la demande de soins. Deux autres modalités qui ont été présentées par le docteur Brunner tout à l'heure. La première, la modalité de soins à la demande du représentant de l'État, l'acronyme SDRE, qui est venu se substituer à celui d'HO. Cette modalité est clairement prévue au sein du Code de la santé publique au niveau de l'article L3211-10. Cet article va nous rappeler le principe d'admission à la demande des parents en indiquant la chose suivante. Hormis les cas prévus au chapitre 3, c'est-à-dire les soins à la demande du représentant de l'État. L'admission d'une personne mineure en SDRE connaîtra les mêmes modalités que celles d'une personne majeure en SDRE. Donc les conditions légales sont les suivantes. Un certificat médical d'un médecin extérieur attestant que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Donc le mode juridique d'entrée sera le même, admission par un arrêté préfectoral ou municipal, c'est majoritairement un arrêté municipal, le début de la période d'observation et de soins ne pouvant excéder 72 heures, le certificat de 24 heures, le certificat de 72 heures, et la confirmation ou l'infirmation par le préfet de la mesure dans un délai de 3 jours suivant la réception du 72 heures. Dans ce cas, les parents seront informés de la situation juridique de leur enfant. La privation de liberté d'un mineur, dans le cas d'une mesure SDRE, ne prive pas les parents de l'exercice de l'autorité parentale et les droits qui en découlent. Dans son rapport relatif aux droits fondamentaux des mineurs enfermés de 2021, le contrôleur, sur ce point, a émis la recommandation suivante. La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée par le représentant de l'État doit être notifiée au patient mineur lorsque son âge ou sa maturité le permet. Elle doit être systématique à partir de 13 ans. Elle doit être accompagnée d'explications et d'informations, notamment sur les voies de recours. Une copie de la décision et un formulaire explicatif de ses droits doivent être remis au patient. Au sein de ce même rapport, le contrôleur a souhaité rappeler que l'admission en soins psychiatriques ne doit pas être regardée comme une constatation de l'absence des capacités de discernement et d'expression de la part du mineur, ce qui priverait ce dernier du droit de participer aux décisions et aux procédures judiciaires le concernant. À ce titre, il a émis la recommandation suivante. Un mineur a le droit de participer à la prise de décision d'admission en soins psychiatriques le concernant et son consentement à la mesure doit être effectivement recherché. Dans le cas où son état ne lui permet pas d'exprimer son consentement, cela doit être précisé dans la motivation de la décision d'admission. Donc une modalité soit la demande des parents, modalité SDRE et modalité OPP, une ordonnance de placement provisoire. C'est une modalité qui est prévue par le Code civil. L'article 375 vient nous dire en effet qu'un mineur peut faire l'objet d'une mesure d'assistance éducative si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Dans ce cas, le mineur peut être placé selon des conditions spécifiques dans un établissement de santé mentale. L'OPP est prévu à l'article 375-9 du Code civil qui, in fine, ne nous apporte pas beaucoup de précisions et qui, au demeurant, ne prévoit pas le contrôle du JLD. La décision confiant le mineur à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement pour une durée ne pouvant excéder 15 jours. Cette mesure peut être renouvelée, toujours après avis médical, pour une durée d'un mois renouvelable. Les décisions sont notifiées aux parents et je préciserai également qu'il y a un article assez méconnu du Code civil qui vient nous indiquer que pour toutes les procédures le concernant, le mineur se voit notifier les décisions relatives à sa situation juridique dès lors qu'il a dépassé l'âge de 16 ans. C'est l'article 1190 du Code civil. Le contrôleur des lieux de privation de liberté préconise également une information de la personne mineure sur sa situation juridique au sein d'une recommandation dans le rapport susvisé de 2021. S'il n'a pas pu être entendu par le juge des enfants avant son admission dans un établissement de santé mentale, le mineur doit être informé dans les meilleurs délais. On retrouve toujours la même chose, en fait, hein, dans les recommandations. Il doit être informé de son statut juridique, de ses droits, dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. Une personne mineure peut ainsi être admise à la demande des parents en SDRE, en OPP, mais se voit accorder une autonomie médicale nouvelle. Une dernière modalité de prise en soins, toujours issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Avant cette dérogation, je préciserai que l'autonomie médicale de la personne mineure était ciblée et encadrée par des textes spéciaux. La délivrance de contraceptifs, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles, le prélèvement de moelle osseuse au profit d'un frère ou d'une sœur, les recherches biomédicales, l'interruption volontaire de grossesse et la contraception. Enfin, autre autonomie médicale encadrée par un texte spécial, la toxicomanie, l'anonymat et la gratuité dans le suivi. À côté de ces textes spéciaux, en 2002, le législateur a créé un texte de portée plus générale en envisageant une autonomie médicale, mais somme toute encadrée de manière rigoureuse. L'idée même de ce texte reconnaissant une autonomie plus générale est que l'exigence du consentement parental pourrait dans certains cas conduire le mineur à s'abstenir d'initiatives nécessaires pour sa santé. Cette dérogation vise à permettre l'accès aux soins d'une personne mineure qui se trouve dans l'impossibilité de se faire accompagner par ses parents. On peut penser à la situation d'une personne mineure qui est victime de violences physiques ou sexuelles de la part d'un de ses deux parents. Cette dérogation permet aux mineurs d'accéder au système de santé. Je ne pourrais pas non plus faire l'économie de la lecture de l'article L1111-5 du Code de la santé publique qui vient créer ce champ dérogatoire. Le législateur nous dit, par dérogation à l'article 371-1, donc par dérogation au principe de l'autorité parentale, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque, et c'est là qu'on voit quand même que les conditions sont bien circonstanciées, lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure. Et dans quel cas? Dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. On nous dit bien que dans un premier temps, le médecin doit s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation et d'associer les parents. C'est toujours le principe de l'autorité parentale qui doit primer. Mais si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de ce choix. Par rapport à ce texte général, vous noterez tout de même le caractère rigoureux de cette dérogation, la sémantique n'étant pas laissée au hasard. Par dérogation, donc on va rappeler le principe de l'autorité parentale. On parle tout de même d'un traitement ou d'une intervention qui s'impose pour sauvegarder la santé, un certain degré de nécessité. Le législateur ne vient pas simplement nous dire toutes les fois où le mineur entend garder le secret vis-à-vis de ses parents, le médecin peut délivrer les soins avec la condition d'un accompagnement d'une personne majeure de son choix. Il faut que le mineur soit expressément opposé et ensuite qu'il maintienne son opposition. Dans un deuxième temps, le médecin pourra délivrer les soins indispensables. Une situation donc qui devra s'apprécier in concreto et rigoureusement tracée dans le dossier de la personne mineure, bien évidemment. On notera par ailleurs l'accompagnement par une personne majeure du choix de la personne mineure, sans aucune exigence de précision relative à la nature des liens relationnels antérieurs existants entre l'accompagnateur et la personne mineure. Ce qui peut interpeller quand on voit les exigences du législateur et du juge quant à la qualité du tiers demandeur pour les soins à la demande d'un tiers. La réunion de ces conditions devrait être rigoureusement tracée dans le dossier. Je soulignerai que la traçabilité reste le maître mot pour les juristes, puisque ce qui n'est pas tracé dans le dossier médical est réputé ne pas avoir été fait. Rappelons enfin que le médecin doit être le défenseur des enfants. C'est une disposition, pour citer un tout dernier article, de l'article 43 de la déontologie médicale. Je vous remercie.
Merci Madame Dujardin pour votre intervention et votre courage.
Merci.
Y a-t-il des questions dans la salle ?
Bonjour. Voilà, merci tout d'abord pour votre présentation toujours aussi claire. Alors, je voulais vous faire part, par contre, d'un trouble que j'ai, puisque j'ai bien entendu vos arguments et vous appuyant sur la jurisprudence pour indiquer qu'il était préférable, si j'ai bien compris, et même très souhaitable, de solliciter l'avis des deux parents. Et ce qui me trouble, c'est que sur le site santégouv.fr, dans la fiche numéro 2 sur l'hospitalisation des mineurs, il est dit, donc sous l'antenne quand même... du ministère que l'hospitalisation est considérée comme un acte usuel de l'autorité parentale et que donc l'établissement de santé n'a besoin de recueillir que l'autorisation d'un seul des parents, en rappelant ce que vous avez cité tout à l'heure, hein, c'est le fait que effectivement on va considérer que le parent est présumé de bonne foi et que c'est lorsqu'il existe un désaccord entre les parents que la décision d'hospitalisation doit être prise par les deux parents. D'où mon interrogation et ma confusion, parce que par ailleurs, eh bien, dans la réalité, on sait le nombre de situations où il est compliqué d'avoir l'avis du deuxième parent, que lorsque l'un va dire oui, eh bien, si on interroge l'autre, on a toutes les chances qu'il dise non pour le principe. Dans leurs conflits continuels. Voilà, donc je m'interroge et on est sur des questions de prise de risque parce que, eh bien, il y a le risque de pas de soins ou le risque de. Ou le temps pour saisir le juge des affaires familiales, avoir une réponse, etc. Donc c'est mon interrogation.
J'ai combien de temps, docteur Salomé, pour vous répondre?
Comme d'habitude.
Vous me connaissez, c'est difficile.
Oui, je sais, mais comme d'habitude, quand je vous pose une question, j'ai besoin de la réponse tout de suite.
Non, mais c'est plus au niveau de la durée. Alors déjà, bon, c'est pas la première fois qu'on peut relever, malheureusement, et c'est aussi interpellant, des informations qui sont juridiquement inexactes sur le site du ministère. Peut-être toujours prendre le soin de regarder la date de publication. C'est pour ça qu'il est prudent de dater les documents. Et malheureusement, il n'y a pas toujours des mises à jour. Or, on a pu remarquer ces derniers temps, alors notamment, il y a un excellent rapport d'Alinazan sur la personne mineure qui a vraiment décortiqué la notion d'acte usuel, qui a fait un sacré travail de référence littéraire. En complément de ces informations, j'avais cité la circulaire de 2009 parce qu'on n'a que ça. On a quelques rares jurisprudences, mais tout de même. Alors, il y a trois jurisprudences que je pourrais vous transmettre. Il y en a une qui est visée par Alinazan dans son rapport sur les mineurs. Mais elle n'a pas été publiée, en fait. Donc, il faudrait voir au niveau du contrôleur si on peut essayer de l'obtenir. Mais c'est vrai que la lecture des quatre jurisprudences montre quand même de plus en plus la tendance, si vous voulez, avec la nécessité de s'efforcer de recueillir l'accord des deux parents. Alors, la question, vous avez raison, et d'ailleurs, on travaille sur ça en ce moment avec un certain nombre de professionnels de l'Imétropole. Hein, c'est vraiment la thématique. Je vois Sidonie par rapport aussi qu'au G21, on travaille sur un formulaire, le formulaire qu'on avait mis en place aussi aux UTP pour les 16-18 ans, c'est-à-dire qu'on a créé, en fait, pour essayer de montrer qu'on a mis en œuvre l'obligation de moyens, alors en privilégiant les soins, bien que je sois juriste, je privilégie toujours les soins de la personne. On a mis en place un document et qui nous semble pas mal, qu'on est en train de dupliquer maintenant dans différentes structures de l'EPSM, où il y a la demande de soins qui est présentée par l'un des deux parents ou des représentants légaux. On demande les plus d'informations possibles sur la situation juridique de la personne mineure. Il faut un minimum donc de recueil de pièces d'identité aussi hein, pour s'assurer de la qualité du demandeur, parce que c'est pas parce que la personne ramène un mineur que c'est forcément le parent. Il faut aussi avoir une vigilance. Et dans ce formulaire, en fait, on demande à la personne les coordonnées de l'autre parent, si la situation du couple conjugal fait qu'ils sont séparés. On demande les coordonnées qui nous permet d'informer l'autre parent. Et si la personne nous dit qu'elle n'a pas les coordonnées ou que l'autre parent s'en désintéresse, enfin, vous voyez les arguments qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, on lui fait signer une attestation sur l'honneur qu'elle ne dispose pas de ces informations. Parce que nous, on a une obligation de moyens, on ne peut pas investiguer comme pour le tiers demandeur à l'hôpital, on voit devant le JLD, c'est tout le temps soulevé. Nous, à un moment donné, on a quand même des limites dans nos marges de manœuvre. Donc la possibilité d'établir ce type de document, je trouve que c'est assez aidant pour les professionnels, c'est aussi rassurant. Mais au-delà de tout ça, c'est pour ça qu'il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps, et c'est vraiment des débats qu'on a actuellement, c'est de se dire, j'ai toujours dit, vous le savez, il y a les lois et l'esprit des lois. Bon. Alors, par principe, il faut vraiment respecter l'accord des deux parents. Et ça, c'est plus... Le juge est de plus en plus strict. D'ailleurs, il y a... Alinazan a recensé toute la jurisprudence, parce que ce n'est pas que sur la santé. Hein. Il peut y avoir sur l'éducation, le sport. En fait, le parent, finalement, qui a la garde de l'enfant, a tendance à prendre les décisions seul et à ignorer le fait que l'autre parent a des droits. Et le juge est de plus en plus strict pour venir appeler « Attention, ne vous accordez pas cette liberté ». Pour que ça soit l'éducation, les vacances, on est même venu distinguer les activités sportives au sujet desquelles il faut aujourd'hui l'accord des deux parents. Parce que l'un des parents s'accordait peut-être un peu trop de liberté. Donc on sent bien que le juge, il commence à bien rappeler les droits des deux parents, et souvent majoritairement aujourd'hui les droits du papa, hein, qui ont tendance à être négligés, pour que vraiment, de principe, je pense, on doit avoir cette posture, ce réflexe. C'est ce que je dis aux professionnels. Mais il va de soi, en première intention, vous avez un enfant qui se présente dans un centre de consultation. On discutait encore la semaine dernière avec les professionnels de Comines sur cette situation-là. Déjà, la personne qui fait la démarche de se déplacer, la personne mineure, qui en demande, qui a une souffrance, on est service public. Voilà. Il faut avoir en tête le fait qu'il faut l'accord des deux parents, par principe. Mais il faut toujours cette première rencontre. Il faut accueillir la personne, bien évidemment, et se soucier du pourquoi, de l'objet, et de voir dans quelle mesure il sera possible de recueillir l'accord de l'un ou l'autre parent. Je dis toujours que l'appréciation, la situation s'apprécie in concreto. Si le mineur qui vient frapper à la porte de la structure a 17 ans, on aura un autre processus réflexif que si le mineur a 14-15 ans, qui est un peu plus loin de la majorité civile. De même, quel est l'objet qui amène le mineur? Dès lors qu'il y a une situation dans la famille, une problématique, une maltraitance, on aura encore une autre posture. Donc mon propos est vraiment de dire, on s'efforce de respecter le principe de l'autorité parentale, qui est commune pour les pères et mères. On s'efforce de recueillir les informations pour montrer qu'on a satisfait à notre obligation de moyens et qu'on ne peut pas investiguer. Et si le parent nous dit « mon mari, par exemple, est déchu des droits », nous, on n'a pas de moyens d'obtenir le jugement du JAF. Donc, s'il ne produit pas le document, nous, on a une limite, mais on a mis en œuvre notre obligation de moyens. Après, si le mineur vraiment maintient son opposition, il est intéressant de relever cette disposition parce que c'est pas pour rien. C'était le défenseur des enfants de l'époque, avant qui est vraiment la grande autorité administrative indépendante défenseur des droits. Et le défenseur des droits de l'enfant avait considéré, donc il avait porté cette disposition dans les débats de l'Assemblée nationale à l'époque, en disant que pour le mineur, beaucoup de mineurs étaient en situation de précarité. Il n'osait pas, il ne voulait pas en parler aux parents, ou s'il est victime. Donc il se retrouverait dans un système où il ne pouvait pas recevoir les soins indispensables. C'est pour ça qu'on a créé ce champ dérogatoire, mais vraiment circonstancié. Donc moi je dis souvent aux professionnels, et c'est pour ça qu'il me faut toujours du temps, hein. De toute façon pour répondre à chaque question, il me faut toujours beaucoup de temps, parce que c'est jamais une réponse binaire. C'est pour montrer les lois et l'esprit des lois. Et de fait, moi je dis aux professionnels, si la situation des parents ne permet pas, s'il y a opposition, quels sont les soins, pourquoi il y a opposition, Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans le champ dérogatoire si le mineur ne veut vraiment pas en parler à ses parents? Donc ça sera un processus réflexif selon un cas donné, à un moment donné. On ne peut pas faire de procédure, de protocole, il veut pas, vous voyez les beaux petits logigrammes, ça ne marche pas, quoi, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas définir le continuum de la prise en charge, la prise en soin pour une personne mineure. Donc ça serait un raisonnement par étapes, et c'est vrai que la base, ce que disait le docteur Hénon, c'est de connaître les droits. C'est de connaître les droits de la personne, connaître la situation juridique pour pouvoir travailler dans un cadre serein, comme acte usuel, non usuel, s'il y a un délégataire qui a été nommé. Les parents restent titulaires de l'autorité parentale. Il y a une différence entre la titularité et l'exercice des droits. Donc c'est dès le début qu'il faut recueillir tous ces éléments. Et après, on est apaisé pour prendre en charge sereinement la personne mineure. Et il ne faut pas oublier, moi je vois, on a des bons contacts avec le parquet des mineurs. En cas de besoin, ce sont des interlocuteurs qu'on peut contacter, hein, si on a besoin donc, d'avoir un élément de réponse par rapport à une prise en soin ou d'être rassuré par rapport à un cadre juridique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, parce que vous me connaissez, hein, je peux parler encore très longtemps sur... C'est vraiment par étapes, hein, c'est toujours c'est connaître le cadre juridique et évoluer in concreto par rapport à la situation et se dire, bon, la personne mineure, elle a quel âge, quelle est sa demande, etc., pour voir quelle va être la modalité de prise en soin. Mais vous savez bien, si vous justifiez dans l'intérêt de l'enfant auprès d'un magistrat, on ne peut pas vous reprocher d'agir dans l'intérêt d'une mineure. Il vaut mieux, vous avez plus de risques à ne pas prendre un mineur en soin qu'à dispenser des soins à une personne mineure. Et vous avez quand même pas mal de leviers aujourd'hui au niveau de la justice que vous pouvez saisir pour cadrer ou vous rassurer par rapport à la prise en soin d'une personne mineure.
Ça me rappelle un article que j'ai lu il y a quelques années maintenant qui s'appelait « Écrivez vos observations comme si elle a été lue par un juge ». Et je pense qu'à partir du moment où on est dans cette, dynamique-là, on n'oublie pas de faire figurer sur nos observations, et en particulier en urgence, parce que c'est là que ça risque de poser problème, sur nos observations, la démarche qui a amené à ce qu'on hospitalise ce mineur, alors même que il n'y a pas de parent disponible immédiatement, ou il n'y en a qu'un. Et à partir du moment où je pense que les choses figurent clairement sur l'observation, même s'il y a un litige derrière, le risque d'être condamné est quand même très très faible. Vous faisiez référence à cette problématique de prescription de Prozac chez une patiente de 16 ans. À mon avis, il ne devait pas y avoir grand-chose dans le dossier pour que ce soit arrivé jusqu'à une condamnation, parce que je ne pense pas que les pédopsychiatres ou ceux qui sont amenés à prendre en soin des patients mineurs appellent à chaque fois les deux parents pour être sûr qu'ils sont tous les deux d'accord sur la prise de telle ou telle molécule. Donc je pense que les rédactions des observations médicales devaient être très très légères pour pouvoir avoir amené à une plainte et surtout une condamnation.
Mais c'est toujours, moi je pense qu'il y a vraiment une thématique sur laquelle il faut vraiment bosser au niveau des hôpitaux, c'est la qualité des écrits professionnels. Puisqu'en cas de contention, en fait, le seul document qui sort de l'hôpital, c'est le dossier médical. Que ça soit une procédure indemnitaire, administrative, donc malheureusement la situation de suicide d'une personne, si les parents veulent mener une action indemnitaire, ils vont saisir le dossier médical. Ce qui n'est pas écrit dans le dossier est réputé ne pas avoir été fait. En cas de contentieux pénal, ça sera aussi le dossier médical qui sera saisi via une commission rogatoire. Et on a pu constater, encore très récemment, que l'excellente tenue d'un dossier médical a permis de nous exonérer à l'EPSM Lille Métropole d'une reconnaissance de responsabilité dans un dossier pourtant sensible, parce que la qualité des écrits professionnels a montré qu'il n'y avait aucune problématique au niveau de la surveillance entre les patients. Donc c'est un sujet sur lequel il faut vraiment tracer dans le dossier. Si vous pouvez expliquer quel est votre processus réflexif, le premier entretien avec le mineur, quelle est sa situation. Et souvent, c'est très compliqué quand on est juriste et quand on doit expliquer aux personnes, parce que ce que je dis aussi souvent, c'est qu'un contentieux, ça se juge a posteriori, selon les éléments factuels. Donc moi, quand on vient me demander le feu vert pour telle et telle action, je n'ai pas la prétention d'être magistrate. Je ne peux pas prédire la sensibilité d'un magistrat parce que parfois, pour des faits, les situations sont différentes. On peut nous dire aussi bien un patient en soins libres doit être surveillé de la même manière que les patients en soins sans consentement. un autre juge d'une autre juridiction, il va dire non, non, un patient en soins libres n'a pas besoin d'être surveillé de la même manière que les patients des autres, enfin, en autre modalité de soins sans consentement. Donc, il y a des sensibilités différentes et c'est toujours la question de pouvoir prouver, en fait, ce qui a été fait à un moment donné pour montrer qu'il n'y a pas de lien de causalité entre un dommage, par exemple, si c'est imprévisible pour le suicide d'une personne. Et c'est toujours grâce au dossier du patient. Et vous savez bien que les contentieux arrivent des années après les faits. Et donc forcément, vous souvenir des années après les faits de vraiment ce qui a été indiqué. Et c'est très très souvent comme ça où ça nous permet de montrer qu'on a réfléchi, qu'on a tracé. Et comme vous dites, le magistrat, il va bien voir que ça a été suffisamment argumenté pour considérer que la décision a été réfléchie à la lumière de la loi et de la jurisprudence.
D'autres questions? Oui, une autre question, docteur Molin.
Bonjour, docteur Molin, je suis le médecin généraliste du pôle turquenois et du coup de l'unité 1625. J'avais une question. Quand les parents signent un accord d'hospitalisation, qu'est-ce que contient cet accord? Est-ce que c'est l'accord juste du fait que le patient est dans un lit? Est-ce que c'est l'accord des bilans sanguins, des examens complémentaires? Ça se pose régulièrement, notamment pour tout ce qui est dépistage des maladies sexuellement transmissibles pour lesquelles... Dans les textes de loi, il y a une dérogation pour le secret médical, mais pour lequel, en intra-hospitalier, je ne suis pas sûre qu'on ait le droit de le faire, sans l'accord explicite parental.
Alors, j'ai pas tout compris.
Quand les parents signent l'accord d'hospitalisation, qu'est-ce qu'ils signent exactement? C'est juste le fait de mettre un patient dans un lit, ou s'ils signent l'accord de la prise en charge avec la mise en place des examens complémentaires, des soins notamment somatiques qu'ils peuvent avoir, dans le cadre de cette hospitalisation?
Ah oui, alors là, on reste sur le... C'est toujours... Là aussi, j'ai combien de temps? Je vais essayer de répondre très, très rapidement. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est plus... C'est même pas tout... Ça devrait être une demande de soins. Ça devrait être un formulaire de demande de soins qui recueille des informations minimales, en fait. Le contenu du formulaire, nous, peut être libre. Par exemple, aux UTP, on a envisagé les sorties du mineur, les visites, etc., dans ce document. En fait, il y a une confusion entre l'autorisation d'opérer, qui est un document très très ancien qui avait été prévu par le décret du 14 janvier 1974. C'est toujours un vieil article qui est dans le Code de la santé publique. Mais depuis, la loi a évolué, puisque le médecin ne peut pas pratiquer une intervention, sauf urgence, s'il n'a pas recueilli l'accord des parents. C'est plus ça, si vous voulez, le raisonnement. Voilà. Donc, les parents donnent leur accord au vu d'une information médicale. Je vous ai donné le contenu de l'information médicale, donc vous expliquez la démarche qui va être mise en œuvre, etc., les investigations, les actes, l'information pour recueillir le consentement de la personne. Donc, in fine, l'information, vous pouvez tout simplement tracer dans le dossier. Le consentement, vous pouvez tout simplement tracer dans le dossier. On parle plus, là, d'un document d'admission qui nous permet de disposer de l'identité des deux parents et s'assurer de l'accord parental conjoint. Donc vous voyez la confusion par rapport à l'autorisation d'opérer qui aujourd'hui n'a plus vraiment de sens puisque ce type de document, par exemple, qu'on demande aux parents en début d'année scolaire pour les enfants, il n'y a jamais un médecin qui va opérer un enfant aujourd'hui alors que le document y a été fait il y a 2 mois. Parce que l'intervention se fait à la lumière de l'accord des parents et les parents donnent leur accord à la lumière d'une information médicale. Vous voyez, par rapport à ce document. Donc, la loi n'exige pas en tant que telle ce type de document. Ce sont des pratiques que nous mettons en place pour justement sécuriser nos pratiques professionnelles en s'assurant de l'identité des deux parents, de leur accord et pour avoir également les pièces d'identité. Oui. L'information est délivrée aux parents. Oui.